Ben, si tu veux, c'est un petit peu aussi le même problème. Enfin, je m'ennuie de parler de moi, ben, puisque tu vas me cerner, tu vas me piéger de toute façon.
L'instant 2.
L'instant 2.
L'instant 2. Vous allez rencontrer quelqu'un.
On m'a souvent dit, c'est pas ça qu'il faut faire, c'est ça qu'il faut faire. Je crois pas à ça. Je crois qu'il faut avoir une loi, il faut être sa vérité. Il faut se battre proprement, loyalement. Il faut savoir que chaque jour est un combat. Le lendemain, il faut tout refaire. Il faut aller chercher. C'est merveilleux. Aller chercher les gens qui ne veulent pas, qui se refusent, par pudeur. Comme ça, lentement. On ne peut pas tricher.
Un invité. Partez à sa rencontre. Prenez le temps de partager. L'instant 2
sur Radio Grenouille.
Vous avez déjà dragué quand il fait froid? Vous savez, très froid. Bon, qui que ce soit, où que ce soit, quoi que ce soit, c'est pas la question. Juste draguer quand vous ne pouvez ni parler, parce que votre bouche est enfouie sous cette doudoune horrible que vous avez péniblement et à contre-cœur sortie de votre placard d'enfant pour ne pas geler sur place, ni lever votre bras pour l'utiliser à des fins somme toute un peu « Oh mademoiselle, t'es super charmante, hein ?» Parce que votre bras, de toute bonne manière, reste dans votre poche ou dans la douceur de votre paire de moufles préférées. Voilà, juste ici, pas plus loin. Et ben, draguer quand il fait froid, en fait, ça nous oblige peut-être à revenir un peu à l'essentiel, le regard. Et si on avait plus que des yeux, plus que les yeux pour draguer? Et si c'était juste ça, la drague, la jolie, la chouette, l'éphémère, ce regard qui se croise dans une rue et qui se perd au coin d'un virage et qui reste aussi, parfois, peut-être, et leurs yeux se rencontrèrent, comme le titre de Jean Rousset sur La rencontre amoureuse, ce beau livre auquel j'aime à rêver tous les jours, sous la neige, un peu naïve. Mon invitée du mois de mars, une femme de mars, anthropologue à ses heures, loin d'être perdue, a écrit un ouvrage qui porte un drôle de nom. Alpha Mâle, séduire les femmes pour s'apprécier entre hommes. Et pourquoi pas l'inverse, d'abord, et pourquoi pas? C'est chez Seuil, et c'est brillant, brillant comme un féminisme qui aurait du bon à retrouver juste un peu de lumière quand on prononce ce nom. Féminisme, 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 féminisme. Arrêtez de penser que c'est un gros mot. Donc c'est juste un mot en fait, et qu'on peut même y mettre de jolies choses derrière, ou devant, ou à côté, comme la drague finalement, quand elle est délicate. Bienvenue dans l'Instant 2, une nouvelle édition, 88.8 sur Radio Grenouille.
Un moment s'il vous plaît.
Bonjour Mélanie Gourarier.
Bonjour.
Du coup, on s'appelle Mélanie toutes les deux. Ça va être une belle émission, ça, pour le coup. Allez, Mélanie, vous avez deux Mélanie dans Radio Grenouille, sur Radio Grenouille, dans l'Instant 2, pour le prix de deux, parce que nous sommes bien deux, vous et moi, aujourd'hui, dans cette émission. On est ravis de vous recevoir. Merci en tout cas.
Ben, merci pour l'invitation.
Et puis, vous dire que, d'abord, j'aimerais commencer comme ça, non pas par la drague dans le froid ou la drague tout court, on va y revenir, c'est un peu aussi, quand même, le cœur du sujet de votre ouvrage, mais commencer... Allez, vous allez peut-être un petit peu grincer des dents par écouter une lecture de cette fameuse, désormais fameuse, tribune, ou de ces deux fameuses tribunes. La première, de la liberté d'importuner ou du droit de ne pas l'être. Vous vous en souvenez, Mélanie?
Oui.
Vous avez suivi, vous, anthropologue, sur les questions de genre, ces débats qui ont eu lieu. Pourquoi on a choisi de le faire lire? Tout simplement pour avoir juste les mots dans nos oreilles et peut-être éviter un petit peu, là, juste maintenant, de parler de polémique. On va juste écouter Lauriane Toulemont lire un extrait qu'on a choisi de la fameuse tribune signée, entre autres, par Catherine Deneuve, Liberté d'importuner. Écoutez.
Le viol est un crime, mais la drague insistante ou maladroite n'est pas un délit, ni la galanterie une agression machiste. Cette fièvre à envoyer les porcs à l'abattoir, loin d'aider les femmes à s'autonomiser, sert en réalité les intérêts des ennemis de la liberté sexuelle, des extrémistes religieux, des pires réactionnaires, et de ceux qui estiment, au nom d'une conception substantielle du bien et de la morale victorienne qui va avec, que les femmes sont des êtres à part, des enfants à visage d'adultes, réclamant d'être protégés. En face, les hommes sont sommés de battre leur coulpe et de dénicher au fin fond de leur conscience rétrospective un comportement déplacé qu'ils auraient pu avoir voici 10, 20 ou 30 ans et dont ils devraient se repentir. La confession publique, l'incursion de procureurs autoproclamés dans la sphère privée, voilà qui installe comme un climat de société totalitaire. Nous sommes conscientes que la personne humaine n'est pas monolithe. Une femme peut, dans la même journée, diriger une équipe professionnelle et jouir d'être l'objet sexuel d'un homme, sans être une salope ni une vile complice du patriarcat. Elle peut veiller à ce que son salaire soit égal à celui d'un homme, mais ne peut pas se sentir traumatisée à jamais par un frotteur dans le métro, même si cela est considéré comme un délit. Elle peut même l'envisager comme l'expression d'une grande misère sexuelle, voire comme un non-événement.
Et comme dans l'instant 2, on aime bien aussi montrer l'autre côté des choses, ou le côté qu'on connaît moins, je vous propose qu'on écoute l'autre tribune, une autre des tribunes qui a été faite et que vous avez, Mélanie Gourarier, aussi co-signée et co-écrite. C'était dans Mediapart, la même voix, la même personne, Lauriane Toulemont, pas tout à fait les mêmes mots.
En témoignant sur les réseaux sociaux, ces femmes ont au contraire fait un choix politique, précisément celui de sortir de l'état de victime silencieuse et isolée auquel elles étaient assignées jusqu'alors pour participer à un soulèvement collectif et international. Il y a délibérément dans toute critique d'un ordre établi un acte révolutionnaire. Et le caractère spontané des témoignages parus sur Internet révèle aussi qu'il s'agit là d'un mouvement d'autodéfense. On comprend dès lors que cette union des femmes passe pour si dangereuse qu'il faille la faire exploser. Notamment en la dénigrant, soit comme apolitique, il s'agit d'hystérique ou de pleurnicheuse, soit comme trop politique, elles mènent une guerre contre les hommes. L'appréciation du corps des femmes, sa mobilité dans l'espace public et son contrôle institutionnel sont la clé de voûte des mouvements conservateurs depuis des siècles. Encore aujourd'hui, la prétendue binarité originelle et biologique des sexes masculins et féminins est réaffirmée avec vigueur afin de reconduire un ordre de genre qui ne bouleverserait pas les acquis du patriarcat. Nous avons voulu réagir en urgence à une rhétorique réactionnaire qui nous apparaît d'autant plus dangereuse et néfaste qu'elle se targue une fois de plus de liberté. Ouvrons la voie.
On ouvre la voie, donc avec vous Mélanie Gourarier. C'était une manière de parler un petit peu d'actualité et de très vite peut-être la mettre de côté pour revenir à votre ouvrage, parce que c'est pour ça qu'on vous a invité aussi, c'est pour en parler. Une réaction sur... simplement ce que vous venez d'entendre, pas sur la polémique des tribunes, tribunes contre, tribunes pour, qui se sont finalement après un petit peu tout emmêlées et on a malheureusement fait quelques amalgames. Sur ce que vous venez d'entendre, qu'est-ce que ça vous évoque ?
Alors c'est difficile comme question que vous me posez, puisque je suis partie prenante, puisque comme vous venez de le dire, j'ai voilà, j'ai co-écrit et co-signé la tribune qui a donné qui est lue en deuxième lecture. Du coup, ce que je peux juste dire, c'est que peut-être ce qui se cache derrière les coulisses de cette tribune, c'est que on a il se trouve que j'écrivais un article avec une des autres signatrices, Aurélie Filot-Chabot, et on était toutes les deux, quand on est tombé sur la tribune de la liberté d'importuner, qu'on a été assez choquées, on l'a vécu de façon très violente en fait cette lecture, et que à ce moment-là j'ai une autre collègue amie qui m'a appelée, qui est Émilie Noteris, et qui m'a dit mais il faut absolument qu'on réagisse. Donc on a comme ça réagi, enfin voulu faire cette tribune un peu en urgence, on le dit à la fin du texte, et surtout on a voulu faire une réponse collective, parce qu'il se trouve qu'il y a d'autres tribunes excellente, hein. J'en citerai une autre dont je conseille vivement la lecture, qui est une tribune écrite par Juliette Rennes, que je trouve tout à fait éclairante sur les enjeux de cette question de la liberté d'importuner. Mais on a voulu faire une réponse collective de femmes féministes de plusieurs origines sociales, religieuses, etc., et montrer qu'il y avait une diversité aussi dans les féminismes. Ce qui nous a surprise de façon assez vive, c'est la façon dont cette tribune a fédéré en fait beaucoup de
signataires.
De signataires, oui, on a eu plus de 3000 signataires. Et nous avons pensé cette tribune et nous l'avons coécrite, nous l'avions pensée de façon collective, mais on n'avait pas mesuré à quel point
il y avait un besoin.
Il y avait ça allait être viral sur les réseaux sociaux, et comment est-ce que des jeunes féministes allaient s'emparer de notre, enfin des jeunes et moins jeunes, hein,
ouais,
d'ailleurs, pas que des jeunes, ouais. Mais ça allait être ça, voilà, on allait s'emparer, enfin tout un public qui allait s'emparer de ce texte-là, qui allait bouger, se mouvoir, se diffuser. On a eu quand même des traductions spontanées en 4 langues. Oui. Donc voilà, ça, on ne s'attendait pas à tout ça.
Ce qui est plutôt, là, pour le coup, un mouvement, on va le dire, un peu plus positif, ou en tout cas qui l'a été. C'était simplement pour remettre un peu en perspective une actualité qui, de fait, est liée à votre ouvrage. Vous ne l'avez pas écrit en fonction de l'actualité, c'est toujours un peu l'œuf ou la poule, mais de toute façon, il est lié. Alpha Male, séduire les femmes pour s'apprécier entre hommes. Vous voulez dire un mot ? Comment vous le présenteriez, votre ouvrage ? Parce que je pense
en tout cas,
c'est toujours mieux que l'auteur le présente.
Ça, c'est compliqué aussi. Je ne vais pas le présenter de façon générale, je vais le relier avec cette question d'actualité. sexualité, qui est, en fait, tout mon travail est une réflexion sur le pouvoir au final. C'est-à-dire que j'ai essayé de penser la séduction non seulement comme un rapport, surtout de déconstruire l'idée que la séduction serait une sphère autonome des rapports de pouvoir, et plutôt de montrer à quel point est-ce qu'il participe de sa reproduction. Donc des rapports de pouvoir, aussi bien des rapports de pouvoir entre hommes et femmes, mais aussi, et ça a été une des surprises de mon terrain, des rapports de pouvoir entre hommes. Puisqu'il se trouve que j'ai travaillé sur, je vais dire quelques mots de mon travail quand même. J'ai travaillé sur un groupe constitué de jeunes hommes, pour le coup, puisqu'ils ont en moyenne 25 ans pour la plupart. Il s'agit d'un groupe qui est apparu à la fin des années 90 en Californie, dans un contexte où se développait à la fois le développement personnel et les réseaux sociaux sur Internet. Et est apparue, c'est une communauté un peu étrange qu'on appelle la communauté de la séduction, qui consiste à des réunions d'hommes entre eux, donc exclusivement des hommes, qui réfléchissent...
Donc fermés aux femmes.
Fermés aux femmes, c'est-à-dire qu'il s'agit d'un apprentissage de la séduction masculine et hétérosexuelle. Donc a priori, les hommes homosexuels et les femmes sont exclus en tant que...
Parce qu'ils n'auraient rien à apprendre.
En tant qu'apprentis séducteurs, si vous voulez. Ils ne font pas partie de cette cible des apprentis séducteurs. Et effectivement, ils sont exclus aussi parce qu'il y a une nécessité d'entre-soi, en particulier entre hommes, puisque il s'agit aussi de reconstituer un savoir qui serait proprement masculin. Donc qu'est-ce que serait un savoir sur la séduction et de la séduction pensé par et pour les hommes? Donc voilà, ces hommes se retrouvent entre eux s'inspirent un peu du développement personnel, du coaching, pour mettre au point une technique qui serait infaillible, ou des techniques plutôt, parce qu'il y en a plusieurs, il y a plusieurs styles
de dragueurs,
des techniques de drague qui permettraient de séduire toutes les femmes.
À toutes les femmes?
A priori, oui.
Ah oui, donc une certaine prétention quand même dans l'approche, non?
En fonction de la technique et du public visé. Il faut s'adapter à son milieu, si vous voulez.
Ce qui est incroyable, c'est que quand on lit votre livre, on se dit, mais ces gens existent. Donc vous êtes allé les voir, leur parler. Ils sont où? C'est masculinistes, on peut les appeler comme ça? Ou c'est séducteurs en bande? Ou comment on pourrait... ces dragueurs organisés, comment on pourrait les appeler?
Alors on peut les appeler comme ça, on peut les appeler par tout ce que vous venez de dire, mais ils se qualifient pas eux-mêmes comme masculinistes. Tout dépend en fait sur quel aspect de ce groupe-là on décide de pointer la focale. Bon, il s'agit d'un groupe d'hommes organisés, mais en même temps pas forcément unis, puisqu'il existe donc on les trouve dans le monde entier. En fait, il y a des groupes d'apprentis séducteurs un peu partout. Ils sont apparus aux États-Unis, mais très rapidement par le biais des réseaux sociaux, puisqu'il existe des forums, des livres qui ont été traduits là aussi en plusieurs langues. Eh bien, il y a eu des forums qui se sont ouverts, notamment en France, là où j'ai travaillé moi en particulier. Donc on les trouve partout. Mais un des enjeux de mon travail, ça a été de montrer que évidemment ils font rire. Ils font sourire en tout cas.
Ils font sourire alors.
Voilà. Alors là aussi, c'est pour ça qu'il faut faire attention à ça. C'est-à-dire que moi, à chaque fois que je parle de la communauté de la séduction, on me dit mais c'est pas possible, ça existe vraiment. Ouais. Et ça me pose question parce que il me semble que il y a plusieurs choses, c'est-à-dire que pourquoi est-ce qu'ils nous font sourire? C'est là aussi, c'est dans notre regard, il y a sans doute un jugement un peu de classe, si vous voulez, c'est que ils font sourire une certaine partie de la population qui s'estime hors de ces préoccupations.
On est tous et toutes un peu dragueurs ou dragueuses, non?
Oui, mais on n'essaye pas de mettre nécessairement au point des méthodes infaillibles, etc. Et encore une fois, il faut, à mon sens, pas penser de la même manière ce que serait une dragueuse et ce que serait un dragueur. Chacun est situé dans une échelle, ce qu'on appelle une échelle sociale. Et je vais utiliser un gros mot, mais on parle dans
allez-y,
mon métier.
J'ai déjà utilisé féminisme, donc on est bon.
Non, féminisme, ça va. Là, vous allez voir, c'est plus costaud. C'est qu'on parle dans mon milieu, dans les sciences sociales, on parle d'intersectionnalité. Et l'intersectionnalité, c'est pour penser la façon dont les individus sont positionnés socialement à l'intersection de plusieurs je trouve pas mon mot,
sphère.
Fois en tant que la question du genre, la question de la classe sociale, mais aussi la question de l'âge et la question de la race. Et la question de la sexualité.
L'instant 2
sur Radio Grenouille.
Content, on revient à simplement, quand j'ai un peu préparé cette émission, il nous arrive dans l'instant 2, simplement comme toute préparation d'émission, de taper le mot, ou un des mots qu'on retrouve dans votre ouvrage d'anthropologue, sérieux, on le rappelle, et On tombe sur quoi ? On peut tomber sur Alain Soral et la drague. Alors ça, c'est quand même épatant. C'est épatant parce que Alain Soral, en 1996, a fait plusieurs vidéos. Alain Soral, bien sûr, on le connaît, sociologue hein, par ailleurs, anthropologue aussi, sur le papier. Dieudonné aussi sur un autre papier, mais ça, c'est pas la question. A sorti un ouvrage sur la drague, en se gargarisant aussi, d'une certaine manière, d'avoir étudié de manière très sérieuse, comme vous l'avez fait, un travail de sociologue, d'anthropologue, ces dragueurs, et d'avoir presque utilisé, quand on lit, c'est épatant, le même vocabulaire d'objectif, d'objectivité dans ce travail, pour arriver quand même à des conclusions qui sont absolument pas les mêmes que les vôtres, pour arriver à des conclusions de d'hommes qui méprisent ouvertement la femme pour le coup et dans cet ouvrage-là. Enfin, c'est pas une révélation que je suis en train de faire. Comment on peut expliquer qu'un même travail de deux sociologues, deux anthropologues, une anthropologue et un sociologue, Alain Soral et vous, sans vouloir du tout mettre vos deux dents sur la même échelle, arrive sur le même travail donc de technique d'anthropologie à des messages et des preuves, s'il en est, si différentes. Quand vous positionnez comme quelqu'un de féministe qui défend donc l'égalité des hommes et des femmes, le pouvoir des femmes, tout comme j'imagine le pouvoir des hommes, au même niveau. Enfin, c'est-à-dire quelque chose d'équivalent ou d'égalitaire. Vous pouvez me reprendre. Hein, si...
Alors là, il y a beaucoup de choses, Mélanie. Je vais essayer de défaire un peu le fil.
Mais comment, en tout cas, on peut arriver à deux techniques qui sont des techniques de sociologie ou d'anthropologie et arriver à deux ouvrages différents.
Alors, Sociologie du dragueur, le livre auquel vous faites référence d'Alain Soral, c'est un titre, c'est-à-dire ça s'appelle Sociologie du dragueur, mais on peut s'interroger à savoir... qu'est-ce que ce livre a de sociologique ? Bon, je sais bien qu'en ce moment, on peut se targuer de s'appeler sociologue et de faire des recherches sociologiques, et on le voit dans la sphère médiatique assez régulièrement, mais il se trouve que quand même, la sociologie, c'est une tradition disciplinaire. Alors là, j'ai l'air un peu ennuyeuse en disant ça, mais malgré tout, il y a...
Vous répondez à ma question, donc c'est moi qui...
Il y a des méthodes... qui sont celles de l'observation, des statistiques. On peut recourir à plusieurs techniques hein, mais la base, c'est quand même recueillir des données. Et le recueil des données, c'est pas uniquement l'expérience personnelle. Ça peut, hein, on peut, il y a des très belles enquêtes ethnographiques qui partent de l'expérience de l'ethnographe. Mais là, en l'occurrence, Sociologie du dragueur, c'est plutôt, moi, je qualifierais cet ouvrage plutôt de alors je m'en sers pas comme référence bibliographique, mais comme source, c'est-à-dire comme matériau d'analyse. Et Sociologie du dragueur, finalement, c'est un ouvrage que moi, je qualifierais plutôt dans le champ de ce qu'on appelle la pop-psychologie, de façon pas très heureuse, puisque la pop-psychologie, qu'est-ce que c'est ? C'est vraiment pas heureux comme appellation, mais je vais vous expliquer.
C'est joli, ça sonne bien.
Parce que c'est ce qu'on appelle la psychologie populaire. Alors déjà, ça va pas, parce que le mot populaire, à mon sens, ne va pas du tout. Et surtout, et aussi, il s'agit pas que de psychologie. En gros, c'est tout un champ d'ouvrages que vous trouvez dans les rayonnages de la FNAC. Peut-être qu'il ne faut pas que je cite de marque.
Allez-y, on est sur Grenouille. Radio associative, tout va bien.
Donc, qui prend de plus en plus de place dans ces chaînes de librairies, où on essaye de... ces ouvrages ont une thèse, a priori très forte. Les femmes viennent de Mars, les hommes de Vénus. Donc, on sait, l'auteur de ces livres sait déjà ce qu'il veut dire à l'avance et se sert des sciences, de la vulgarisation des sciences, que ça peut être l'éthologie, donc là c'est là, les comportements animaux, ça peut être la biologie, ça peut être n'importe quel type de science, que s'il s'agisse de sciences sociales ou de sciences biologiques, etc. Et de les mettre au service, donc de prendre quelques conclusions sorties de leur contexte et de les mettre au service d'une thèse. Et c'est très problématique, puisqu'en fait, il ne s'agit plus de science, même si ça a toutes les apparences de la science. Il s'agit d'une espèce de manipulation de données qui n'ont plus aucun sens, sorties, encore une fois, de leur contexte d'énonciation. Et du coup, je ne veux pas faire de hiérarchie entre les savoirs, mais tout de même...
Allons-y. Vous venez de faire une sorte de prétérition, c'est ça ?
Je me présente...
Je ne vais pas le dire, mais je le dis quand même. C'est un truc de journaliste, hein, ça, pour le coup.
le métier commence à rentrer, à force de parler de mon livre. Mais... Je me présente comme une chercheuse féministe. Je suis une chercheuse féministe, mais mes méthodes sont celles de l'anthropologie, c'est-à-dire que j'ai fait un terrain de 3 ans au sein d'un groupe, que j'ai observé ce qui s'y passait, et j'ai essayé de comprendre, de respecter le discours des personnes que je rencontrais, et surtout là où je me différencie très nettement, par exemple, de personnes comme Alain Soral et d'autres personnes qui se disent sociologues. Je fais un travail de mise en perspective généalogique. C'est-à-dire que, par exemple, il me semble que le sens qu'on accorde aujourd'hui à la séduction n'est pas le sens qu'on lui a toujours accordé. Il faut évidemment réfléchir à comment est-ce qu'on concevait la notion de séduction au 19e siècle ou plus tôt encore. Et aussi, qu'est-ce que la séduction à l'échelle d'autres sociétés, pour pouvoir montrer qu'en fait, ce qui m'intéresse, c'est de déconstruire la norme. Et la séduction est une norme. Et pour pouvoir déconstruire cette norme, il faut aller voir dans l'histoire et dans d'autres espaces géographiques, dans d'autres sociétés.
Et tirer des fils, effectivement, pour prendre là aussi du recul, pour le dire très simplement, pour déconstruire une norme, dont déconstruire peut-être celle du patriarcat, Mélanie Gourarier. Non, c'est plutôt pas mal dit, ça.
Oui, oui.
Je crois que c'est le choix musical que vous avez fait dans l'instant 2. Brigitte Fontaine, donc pourquoi ce choix, Mélanie?
Moi, je suis quand même assez fan de Brigitte Fontaine. Et je trouve que c'est vraiment un exemple de féminisme artistique tout à fait réjouissant.
Avec l'art et la manière de Mélanie Gourarier, c'est le choix musical, le premier dans l'instant de Patriarcat, Brigitte Fontaine.
En direct, l'art de transmission, l'organisation du contrôle est une performance de haut niveau, score 3-0. Bâtons euros et king size est vainqueur à droite de votre écran. Impossible à Marie de remonter un tir contré de Gambetta, leader incontesté qui exploitera un tir de Tintin et les principaux dirigeants révolutionnaires se sont imposés. En tête, les 3 enfants élevés par la police dans un but éducatif et dans l'esprit du loisir qui est le frère de la production, nous déclarer bravo les femmes qui ne pleurent pas. Angle d'attaque super coupant, 240 coups par seconde. Plus belle, chérie, sois plus belle. Oh chérie, je suis ton président. Mon taux de croissance est supérieur à celui d'un patron de gauche, car il n'y en a pas de même qu'il n'y a pas d'homme de gauche. Quand il s'agit de femmes, il n'y a que des hommes de droite dans la seule patrie existante sur la terre. Ne suis-je pas prisonnière dans ma propre maison, dans la maison des hommes? Ne suis-je pas prisonnière depuis le jour
ben on se souvient alors de Brigitte Fontaine, Mélanie Gourarier, dans l'instant 2 ce mois-ci, au mois de mars, au chaud. Dans ce studio rouge de Radio Grenouille, toujours aussi rouge comme la séduction aussi, qui peut être belle, même si votre ouvrage l'a dépeint comme comment une séduction, pour reprendre ce que je disais dans l'introduction, une séduction, une belle séduction, c'est quoi pour vous, Mélanie Gourarier ? Pas l'anthropologue. Juste la femme. Vous aimez être séduite ?
Oh là là. J'ai pas trop l'habitude de parler de moi.
Pourtant, c'est ce que vous faites depuis 22 minutes. 25.
Alors, je me cache derrière mes objets. Disons que je vais réussir quand même à vous faire une réponse. Pour moi, une belle séduction, c'est une séduction qui serait réciproque et pas jouée d'avance. Alors, pourquoi je dis ça ? Je dis ça dans une perspective toujours féministe, puisque...
Ah, vous vous recachez derrière vos objets, alors ?
Oui.
Non, c'est ça. Non, parce que c'est intéressant. Si vous vous souvenez de l'introduction de cette émission, j'ai parlé de regard dans la séduction. Mm-hmm. Que c'était peut-être ça l'essentiel. C'est ça qui n'est pas attendu, qui n'est pas joué d'avance ? Est-ce que ça peut passer par les yeux, simplement, la séduction ?
Alors, ce qui passe par les yeux, justement, c'est cette espèce de moment, peut-être, où on cherche la réciprocité. J'entends beaucoup, ces derniers temps... En ce qui concerne toute cette affaire sur les questions de harcèlement...
Donc balance ton porc, MeToo.
Voilà, on me dit, mais quand même, moi j'ai des copains qui savent plus comment s'y prendre, qui ont peur de passer pour des harceleurs, etc.
Répondons
à ceux qui ont peur, ils sont nombreux. Non.
La France a peur, Mélanie Gouard.
Non, mais plus sérieusement, il y a deux choses. Déjà, je pense que c'est un argument qui est... monter en épingle, c'est-à-dire que je ne suis pas sûre que les gens ont peur de maintenir des rapports de séduction. Donc c'est plutôt, à mon sens, un registre de ce qu'on appelle la disqualification du discours féministe, c'est-à-dire finalement attention à ce qu'on fait en ce moment, parce que c'est la tribune pour la liberté d'importune, c'est vraiment ça le truc.
Mais notamment, on a cité Catherine Deneuve, mais aussi Elisabeth Lévy,
et beaucoup
d'autres.
De la vieille garde.
Ouais, on peut dire ça comme ça, bien sûr.
Peut-être parce que vieille, c'est un peu...
C'est un petit peu péjoratif.
Péjoratif, c'est pas du tout ça que je voulais dire.
Et l'arrière-garde en même temps, ça peut être aussi... C'est déplacé quand on y pense. Enfin, en tout cas, ces femmes-là.
Parce que ces femmes-là, elles tiennent un discours finalement extrêmement classique, qu'on connaît très bien dans l'antiféminisme, d'une dévalorisation du discours féministe en disant, attention, c'est un discours puritain, ces femmes veulent rompre avec une espèce d'une séduction représentée comme un idéal particulièrement réjouissant, beau, hors de la sphère du pouvoir, etc.
L'instant 2, sur Radio Grenouille.
Vous allez rencontrer quelqu'un. On dit d'ailleurs souvent aussi, on va employer le « on », parce que là on parle de ce qu'on peut entendre dans la société française, disons, on va s'arrêter là, qu'une féministe est moins désirable. Et quand on pose la question à certaines femmes, pourquoi vous n'êtes pas féministe alors qu'elles le sont parfois tout en l'ignorant, vous répondent parce que c'est pas désirable une féministe. Pourquoi ?
Oui, ça participe encore une fois des stratégies de dénigrement du féminisme, c'est-à-dire faire passer j'ai du mal à trouver mes mots.
Ça arrive.
Mais
à tout le monde. Aux hommes comme aux femmes. Oui.
Mais pour moi, c'est plutôt bon signe. Ouais. Ça veut dire qu'on réfléchit un peu. Mais c'est rendre indésirable l'engagement politique des femmes. C'est quand même une sacrée performance de parvenir à ça. C'est-à-dire à maintenir ce caractère indésirable de la parole, d'une parole engagée des femmes au bénéfice des femmes.
En disant que le discours féministe serait précisément toujours violent, politique, engagé, agressif et anti-homme, finalement. On arrive souvent à cette conclusion qui est pour le coup absolument fausse. Mm-hmm. Et justement, pour vous aider à trouver vos mots, Mélanie Gouarari, on avait envie dans l'instant 2 de vous faire écouter une chronique de Clémence Fuléda qui a mis à la place des mots des sons des sons un peu étonnants. Je vous en dis pas plus, à vous comme à celles et ceux qui sont en train de nous écouter, puisque vous parliez de transmission du féminisme aux hommes comme aux femmes, aussi d'un message. Donc s'il y a un message, c'est qu'il y a un émetteur et un récepteur. Comment éduquer peut-être un petit garçon, un tout petit garçon? Clémence Fuléda dans l'instant 2.
Parlez-moi de lui.
Instant 2.
Comme si c'était la première fois.
Dis-toi, tu as 5 mois seulement, mais ton père et moi nous posons déjà tellement de questions. Comment te transmettre notre amour de la vie, celui de l'amitié? Comment t'élever dans la bienveillance pour que tu sois dans l'empathie et soucieux de rendre ce monde meilleur à nos côtés? Me poserais-je toutes ces questions si tu étais une fille? Sûrement, mais pas de la même manière. Déjà, je t'imagine conquérant. Ouvrirais-je ainsi le monde à ton éventuelle petite sœur?
Petit pépère.
À chaque fois que je sors un de tes jouets, je prends bien soin de te le montrer et de le ranger. Ensuite, je me dis que ça commence par là, le partage de la charge mentale.
Et qu'est-ce qu'on fait quand on a fini, Titouan? Hein? Qu'est-ce qu'on fait? On jette la couche. Parce que les couches lavables, on n'a pas tenu. Parce que maman, elle va pas toujours ranger derrière toi, tu vois.
D'ailleurs, ton père oublie souvent ta couche sur le bord de la table à langer. Ceci dit, depuis que j'ai repris le travail, la vie s'est un peu inversée pour nous deux. Même si c'est toujours moi qui pense à prendre ton carnet de santé chez le médecin, chez qui j'ai pris rendez-vous. C'est lui qui t'amène chez la nounou et qui va te chercher. Lui qui fait tes machines et te fait prendre un bain. Moi, j'ai passé 3 mois non-stop avec toi.
Ça se mange pas.
Et me voilà replongée dans le travail.
Ça se mange pas, la bonnette, Titouan.
Je pars à 7h30, rentre à 20h30, au nom d'un métier que j'adore, mais dont je me demande parfois à quoi il rime quand je te prends dans mes bras et que tu m'ignores, n'ayant Dieu que pour le mobile que je t'ai fabriqué. Finalement, tes levées me renvoient surtout à ma propre féminité, voire à mon propre féminisme. Non, être mère n'est vraiment pas un accomplissement en soi, même si te bercer, t'allaiter me procure un bonheur intense, instinctif, presque animal. Oui, j'avoue sans honte ne pas me précipiter les soirs où je ne travaille pas pour venir te chercher, savourant ces moments où je peux podcaster les émissions en retard, finir une série ou commencer un bouquin. Et malgré tout, je peux rester des heures à te regarder dormir. Ma vie se tourne plus que jamais vers le partage. Au-delà de l'angoisse que j'ai pour toi, je continue, tu sais, encore d'écouter à la porte pour voir si tu respires. C'est la joie de me dire que tellement de fous rires, de chansons d'Anne Sylvestre, de spectacles de Joël Pommerat, d'expo de Niki de Saint-Phal sont à venir et à redécouvrir avec toi. C'est cette joie, oui, qui
Paco
domine.
Paco et le jazz. Oh, mais qui voilà? Le renard avec sa clarinette.
Reste que tu es né blanc, dans une famille plus que privilégiée. Comment t'apprendre à ne pas abuser de cette position ultra-dominante? Comment faire aussi pour que tu ne sois pas dans un idéal de puissance masculine qui fait que certains semblent avoir peur des femmes? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Alors je me dis juste que peu importe les attributs masculins ou féminins, ce qui me guide au quotidien, c'est l'espoir et l'ambition de t'aider à devenir, loin des petitesses, un homme avec un grand H. Ta maman, une sorcière comme les autres. Enfin, je crois.
On en est sûr. Clémence Fuléda signe avec tendresse sa lettre à Titouan, qu'on entend, qui a participé avec joie et bonheur à l'instant 2. Merci à lui de ces quelques petits mois. Mélanie Gourari, quand vous entendez ça, qu'est-ce que ça vous procure d'abord? Parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de choses sous une apparence de simplicité. C'est aussi la beauté de la radio et du son. Il y a de la transmission, de comment on éduque un petit garçon. Il y a la charge mentale, il y a... Voilà, quelle est votre première réaction comme ça, sans trop réfléchir? C'est dur pour une anthropologue.
Là, ce que je me dis, c'est on voit à quel point la position réflexive est une position d'apprentissage. C'est-à-dire que savoir se penser en tant que situé socialement, c'est aussi avoir fait sans doute l'expérience de la minoritaire. Quelle qu'elle soit, c'est-à-dire qu'il s'agisse d'une minorité de genre, donc le fait d'être une femme, sexuelle ou de...
Donc est-ce homosexuelle?
Voilà.
Ou, de classe,
de ne pas incarner, ouais. En fait, de ne pas être incarner ce qu'on appelle la norme majoritaire, voilà. Et que je pense que c'est plus facile de faire ce travail, enfin c'est plus facile, c'est qu'on on arrive à faire ce travail réflexif que parce qu'on vit ce que ça veut dire d'avoir cette expérience, minoritaire. Et du coup, le questionnement de cette jeune maman, si je comprends bien,
c'est ça, et journaliste
et de
aussi.
Savoir comment est-ce qu'elle va transmettre en fait cette capacité réflexive à son fils qui est un homme blanc.
C'est ça.
Voilà, et je trouve ça plutôt intéressant du coup.
Pourquoi?
Bah justement parce qu'elle s'interroge elle-même, comment elle va pouvoir transmettre cette capacité à réfléchir à soi en tant que située socialement et en tant que porteur d'une position de pouvoir.
Au-delà du coup d'être auteur, anthropologue, vous vous êtes déjà posé ces questions, vous voulez poser aussi au-delà de votre travail. Comment j'éduquerai un jour, si j'en ai un, parce que là aussi la question du choix est super importante dans votre ouvrage et puis dans le féminisme en général, comment j'éduquerai un petit garçon, si j'en ai un.
Ça vous inquiète, j'avoue que j'ai jamais réfléchi de façon très pratico-pratique à cette question-là. Pour le moment, c'est un projet qui est plutôt un projet, la question de la parenté, c'est un projet qui reste un objet de recherche puisque je travaille en ce moment sur la paternité.
Sur quoi vous ne recherchez pas, Mélanie Gouarier?
Mes recherches s'orientent sur la paternité, donc j'ai écouté cette lecture plutôt comme en tant qu'anthropologue. Peut-être il va falloir que je réfléchisse au fait qu'effectivement, pour quelles raisons je n'ai pas encore formalisé très concrètement qu'est-ce que ça veut dire d'éduquer un petit garçon et une petite fille.
C'est ce que dit Clément. Laisser la place peut-être un jour à une éventuelle petite sœur. Est-ce que c'est pas simplement rappeler que l'éducation au féminisme, s'il y en a une, elle commence très tôt et très simplement?
Oui.
Ramasse ta couche, aide-moi à débarrasser.
Alors ramasse ta couche, j'ai l'impression qu'il faut plus qu'elle le dise à son compagnon,
c'est
si j'ai bien compris.
Ça y est, un petit message subliminal, Fabien, auquel on pense.
Mais
qui le fait pour le coup.
Oui, mais il faudrait pas que ça lui, elle ait besoin de lui dire quoi. C'est ça aussi la question de la charge mentale, c'est qu'on voit bien à quel point elle réfléchit à qui va ramasser la couche quoi. Ouais. Et c'est ça vraiment la charge mentale.
Juste pour revenir simplement sur ça, la charge mentale, on en a beaucoup parlé ces derniers temps sur les réseaux sociaux, parce qu'il y a une petite bande dessinée qui a cartonné. Juste en deux mots, la charge mentale, c'est quoi? Comment vous la définiriez?
La charge mentale, c'est le travail invisible des femmes. Je dirais que c'est quand même pas mal. C'est énorme.
C'est énorme.
Femmes et pas que des femmes d'ailleurs, mais c'est toute la question du travail du care aussi. C'est ce qu'on appelle le travail du care, donc le soin apporté aux autres. Et c'est tout ce travail-là qui n'est pas de gestion du quotidien qui est un travail que les femmes gardent souvent dans leur tête ou alors trouvent des techniques. J'avais entendu une technique assez intéressante où une mère de jeunes enfants ne pouvait pas s'endormir, elle avait un petit calepin à côté de son lit où elle notait tout ce qu'elle devait faire le lendemain. Voilà. Donc la charge mentale, elle peut être tellement chargée qu'elle peut empêcher le sommeil. Mais oui, la charge mentale, c'est tout ce travail-là qu'on ne voit pas, mais qui occupe un espace, tout l'espace d'esprit, et cet espace d'esprit n'est pas disponible pour la flânerie et d'autres choses qui permettraient, de développer d'autres choses.
L'instant 2. Vous allez rencontrer quelqu'un.
Sur Radio Grenouille. Est-ce qu'être une femme anthropologue qui est chercheuse donc dans le domaine du genre, on va le dire très vite, même si vous faites beaucoup d'autres choses.
Mais ça me va.
Ça vous va, c'est le principal. Est-ce que ça aussi, ça empêche de vivre et de flâner en ce moment? Est-ce que ça prend pas beaucoup, beaucoup, beaucoup de place? Et pourquoi? Est-ce que c'est... Pour vous, c'est un combat, une lutte?
Alors, je dirais que, alors là, c'est plus sur mon rapport à mon métier. Je dirais que la flânerie, à mon sens, c'est mon mode.
Et non, la fânerie. C'est intéressant. On pourrait analyser vos lapsus dans l'instant 2.
Je vais essayer de pas relever, mais voilà, la flânerie donc est mon mode premier de connaissance. C'est-à-dire que, et là, je suis pas la première à faire ça. Il y avait une anthropologue, Colette Pétonnet. Je sais plus. J'ai un trou de mémoire. Je suis désolée parce que elle avait une superbe expression pour l'observation flottante. Voilà.
Oh, c'est beau ça.
Et c'est vraiment, c'était son mode de ethnographique premier. C'est-à-dire, en fait, moi, je me laisse imprégner parce que je ce que j'observe, mes interactions avec les gens, je pense que cette espèce de temps de non compréhension des choses, c'est-à-dire peut-être d'expérience un peu directe, qu'on ne sait pas exactement ce qu'il se passe, on
presque ressent d'errance, hein, et de flottement, presque.
Ah, l'errance, l'errance, ça vraiment, c'est un grand classique de la recherche anthropologique. Ah oui, je pense que l'errance, c'est vraiment quelque chose de nécessaire. Il faut se laisser ouvert à l'errance. Pour pouvoir avancer, en tout cas, dans l'ethnographie, l'errance. Oui. Non, vraiment, je trouve
accepter
que c'est quelque chose...
On parle souvent du lâcher-prise. C'est un mot qui est très à la mode. Mais finalement, c'est quoi? C'est ça? C'est se laisser...
Alors,
envoûté, non mais erré pour le coup dans votre travail par exemple.
C'est alors le lâcher prise c'est autre chose et ça ça m'intéresse pas mal parce que le lâcher prise je trouve que c'est vraiment une injonction contemporaine assez dure. Alors moi je suis assez critique avec ça parce que sans doute je n'y arrive pas, mais pour moi c'est pas du tout la même chose. Il n'y a pas nécessairement de lâcher prise dans l'errance, au contraire peut-être, je crois pas qu'il puisse y avoir de ça. L'errance et le lâcher prise ne se recoupent pas, et pour moi la question du lâcher prise peut être extrêmement culpabilisante, justement, si on parle de la question de la charge mentale. Mm-hmm. Ça veut dire qui a les conditions matérielles d'existence pour parvenir au lâcher-prise, quoi.
Alors ?
Ben, je sais pas.
Ben, vous savez pas ? Ben, je vous propose qu'on écoute quelqu'un qui nous fait lâcher-prise, nous fait errer, nous fait vibrer. Elle s'appelle juste Nina Simone et on n'a pas besoin de la présenter puisque ça, c'est votre choix, Mélanie Gouraille.
Sugar in my bowl. I want a little sweetness down in my soul. I could stand some loving, oh so bad. I feel so funny, I feel so sad. I want a little steam on my clothes. Maybe I can fix things up so they'll go. What's the matter, Daddy? Come on, save my soul. I need some sugar in my bowl. I ain't fooling. I want some sugar in my bowl. So they'll go. What's the matter, Daddy? Come on, save my soul. I want some sugar in my bowl. I ain't fooling. I want some sugar in my bowl.
L'instant 2.
L'instant 2.
L'instant 2. Vous allez rencontrer quelqu'un.
Nina Simone. Alors attention, parce que Mélanie Gourarier, c'est l'un de vos choix. Il y en a eu deux dans l'instant 2. On est passé de Brigitte Fontaine à Nina Simone. Si, si, on peut relier tout ça. Vous pouvez nous dire le titre dans votre voix de cette chanson,
s'il vous plaît ? Alors là, je suis très mauvaise en anglais. I want a little sugar in my bowl.
Excellent, avec l'accent marseillais, ça passe hyper bien. Sauf que vous aimez Marseille, on va y revenir aussi. On n'est pas loin des sucettes de Gainsbourg écrites pour France Gall, non ?
Oui, sauf que on n'est pas loin, et en fait on est très loin, puisque les sucettes écrites pour France Gall ont été... c'est un homme de... Trois fois le double de son âge.
Trois fois le double. Ça fait beaucoup. Je suis pas bonne en maths pourtant. Je sais que vous êtes anthropologue très littéraire.
Moi, je suis peut-être encore moins bonne que vous.
Historienne de l'art. Là, vous m'avez bluffée. Oui. Qu'un homme plus vieux.
Ça, fait. C'est mon côté aussi marseillais. Et donc. Donc ça n'a rien à voir parce que c'était un piège un peu pour
France Gall. France Gall, alors dit que jusqu'au bout. Hein,
alors que là on a Nina Simone qui raconte son désir. Son désir de sexualité, quoi.
De faire l'amour.
De faire l'amour, hein. Voilà.
Ou plus d'ailleurs. Alors, de faire l'amour.
Plus que
de...
faire l'amour, faudra m'expliquer.
Je sais pas, il y a.
plus, alors, je vois pas ce qu'il peut y avoir de plus.
Différemment, excusez-moi. En employant un autre terme, vous voyez.
Bah, disons qu'elle voilà, elle exprime en tout cas.
La sensualité de cette musique est quand même incroyable.
Voilà, c'est ça.
Le piano, la trompette qui arrive comme ça, comme une sorte de climax, voire un orgasme musical au milieu de la musique. On y est, quoi.
Oui, oui.
Voilà,
oui, oui.
Elle s'en est jamais cachée d'ailleurs, non ? Il y a de ce double sens potentiel.
Ah non, elle s'en est jamais cachée. C'est bien là où il y a une différence avec Annie Aime les sucettes.
Voilà.
Mais. C'est que là, on a une femme qui volontairement se sert d'une métaphore alimentaire pour dire qu'elle a des envies sexuelles et les affirmer de façon assez, à la fois extrêmement sensuelle et assez directe, frontale.
Qu'on pourrait qualifier, je vais précisément dans le préjugé, pour le déconstruire avec vous, masculine, de manière peut-être un peu masculine de dire « j'ai envie de faire l'amour ».
Bah, elle montre justement qu'il ne s'agit pas d'une manière masculine.
Tout à fait, mais que ça pourrait être pris comme une manière masculine. Parce que ce qui est frontal, ce qui est « j'ai envie de faire l'amour » est souvent associé à la masculinité.
Bah, on a empêché, on a fait croire aux femmes et aux hommes que les femmes n'avaient pas de désir. C'est toute l'histoire de la sexualité. Mais il y a toujours des interstices, il y a toujours des artistes, des auteurs qui montrent que et des histoires qui montrent que le désir féminin a toujours été très puissant et même dans certaines sociétés a fait peur. Il a été nécessaire de le contrôler, de le brimer, de l'empêcher de s'exprimer justement.
Nina Simone, bien sûr, c'est quelqu'un qu'on apprécie quand on est une femme libre, ou qu'on essaie en tout cas de l'être, parce que la liberté, ça s'acquiert et c'est pas toujours évident. Elle est aussi, dans ce gros mot que vous utilisiez tout à l'heure de chercheuse, l'intersectionnalité.
Oui.
Parce que voilà, c'est une femme noire, remplie de... Enfin, multiple, en fait, tout simplement, en termes d'identité. Une femme qui ne s'est jamais cachée d'aimer la sexualité.
Dans un milieu d'hommes, hein, le jazz.
Dans un milieu d'hommes, exactement. C'est pour ça que vous l'aimez, Nina Simone, ou vous l'avez découverte autrement qu'en tant que chercheuse, Nina Simone.
Ah
c'est
oui,
quoi le premier
sûr.
Souvenir de Nina Simone
ah non, non.
Chez Mélanie Gouraille.
Bah, je peux même pas dire mon premier souvenir. J'ai l'impression d'avoir toujours écouté Nina Simone, et ça peut-être je dois pour le coup à mon papa. Mais il y a beaucoup de choses que j'ai pas découvertes de façon scientifique, heureusement. Je serais un monstre sinon, je crois.
Mais c'est pas le cas.
Mais oui, je peux pas vous dire. J'ai l'impression que Nina Simone a toujours été là et que derrière Nina Simone, il y a beaucoup d'autres choses. Mais effectivement, comme vous le dites, ce qui m'a intéressé aussi là, adulte, hein, avec Nina Simone, c'est qu'elle. Pour moi, c'est une. Enfin, dans mon imaginaire de petite fille, en tout cas.
Dans votre monde.
Voilà,
ouais.
C'était une guerrière, quoi. C'était. Ouais. Une guerrière splendide avec sa voix, avec ses textes, avec sa présence. J'ai grandi avec ces figures de femmes, en tout cas. C'était Nina Simone et puis d'autres, mais
lesquelles qui vous vient avec panache quand on parle de ça?
Alors je dirais moi, je vais avoir l'air un peu groupie, quoi. Mais bon, bah
c'est parfois bien d'être niaise, vous inquiétez pas. Non, c'est ça, dans l'instant 2, on rend les gens niaiseux un petit peu. Mais
moi, j'ai beaucoup aimé les artistes femmes, Frida Kahlo. J'écris aussi un livre sur un jardin de Niki de Saint-Phalle. Donc je suis rentrée dans le féminisme avec l'art, en fait, avec Niki de Saint-Phalle même.
Comment?
Eh bien, à mal, hein, parce que en fait, Niki de Saint-Phalle a développé tout un vocabulaire artistique qu'elle pensait comme essentiellement féminin. Et c'est ce rapport à l'essence féminine que, à l'issue du livre que j'ai écrit donc sur le jardin des tarots, qui se trouve en Toscane, que j'ai voulu déconstruire. Et c'est par cette idée d'une essence féminine qui me satisfaisait plus que j'ai voulu faire des sciences sociales et que j'ai commencé à faire de l'anthropologie.
Parce que vous êtes historienne de l'art ?
J'étais historienne de l'art.
Ah, vous dites carrément j'étais. Vous l'êtes encore.
Bah, c'est-à-dire que
vous avez fait des études d'histoire de l'art.
Oui, bah, je me sens moins historienne de... Je me sens dans tous les cas un peu historienne, mais je faisais de l'histoire de l'art comme je faisais déjà de l'ethnographie, c'est-à-dire que je suis allée sur le jardin des tarots, rencontrer les personnes qui avaient travaillé avec Niki de Saint-Phalle. J'ai toujours eu un rapport comme ça, un peu de micro-histoire, de comprendre les choses telles qu'elles avaient été vécues par les gens qui pouvaient encore en témoigner, des choses comme ça.
À la Annie Arnaud, un petit peu. Alors, elle vous a inspiré Annie Ernaux ou pas?
Annie Ernaux, je l'ai rencontrée beaucoup plus tard. J'aime beaucoup son travail. Je n'ai pas la prétention de dire que je fais la même chose.
Je n'ai pas eu la prétention de dire que vous faisiez la même chose.
C'est peut-être moins une figure pour moi. Ça fait pas partie. C'est quelqu'un que j'ai rencontré il y a peu de temps, Annie Ernaux, finalement, dans ma trajectoire. Je dirais il y a 3 ans, quoi. Donc c'est beaucoup plus tard.
On va vous faire passer à la moulinette du si vous étiez dans l'instant 2. Si vous le voulez bien. Et puisqu'on a parlé de Nina Simone, on a parlé aussi, en évoquant, en le suggérant, de Carrie Leroux. Vous savez qu'elle aimait beaucoup la Côte Bleue, à côté de Marseille, Nina Simone. On va juste vous faire une petite interview mitraillette, mais tout en douceur, Mélanie Gourarie.
D'accord.
Vous voulez bien ? C'est bien, ça change un peu des mitraillettes. Vous êtes dans l'instant 2 sur Radio Grenouille. Nous sommes, a priori, au mois de mars.
Si vous étiez...
Mélanie Gourarie. Si vous étiez, justement, vous avez parlé de Toscane, on a parlé de Marseille, pas tout à fait dans votre trajectoire, mais on y revient, une ville. Si vous étiez une ville.
Bah je serais les villes dans lesquelles je vis et que j'aime, Montreuil et Marseille.
Oh, ça commence par la même lettre.
Voilà.
Et il s'avère qu'on dit souvent que ces deux villes se ressemblent.
Oui.
Pourquoi ?
Ben pour moi, c'est les gens, en fait. Les gens qui ont un plaisir de discuter,
de la chat,
ça c'est un peu mon truc, ouais.
C'est quoi Marseille pour vous, ça évoque quoi, en fait?
Marseille, ça évoque
On s'est rencontrés à Marseille, nous.
Oui, tout à fait. Ça évoque, bah c'est une ville que je connais depuis, je suis pas marseillaise, hein. Je connais Marseille depuis une dizaine d'années. C'est une ville que voilà, qui est rentrée dans ma vie et que j'ai aimé, que j'ai appris à aimer et que j'aime maintenant de façon très intense, et j'essaie d'y passer un maximum de temps. Pour moi, Marseille, c'est une ville électrique, quoi. Voilà.
Montreuil aussi. Quand je pense à Montreuil et que j'essaie de le relier à votre travail et au féminisme, c'était la maison des Baba Yaga, hein, quand même,
oui.
De Thérèse Claire.
Oui.
C'est aussi une femme qui vous a marqué.
C'est une femme aussi que j'ai découverte un peu sur le tard, donc je dirais pas qu'elle m'a marqué dans les premiers temps de ma formation au féminisme.
Cette maison incroyable, autogérée en tout cas, de vieille, parce que Thérèse Claire employait le terme vieille, on l'a eu à ce micro.
Oui, mais ça c'est moi, je trouve ça hyper intéressant. Voilà, ces femmes qui décident de vivre une vie un peu alternative, de se retrouver entre femmes, hors de la conjugalité hétérosexuelle, etc. Et qui sont solidaires à un moment de la vie où on peut être plutôt seule, je trouve que c'est...
La fin, oui.
Voilà, c'est très inspirant, en tout cas, comme, pour moi, comme mode de vie, comme choix de mode de vie.
C'est ça, et pour beaucoup, hein, cette question de ne plus vieillir seule et de vieillir, pas forcément avec sa famille, son couple, son partenaire, son conjoint, sa conjointe, mais voilà, en collectif. Et cette maison des Baba Yaga est toujours ouverte, malgré la disparition de Thérèse Claire. Je crois qu'elle est toujours en activité.
Si vous étiez
un plat, tiens, Mélanie Gourarier.
Bah, je vais dire le premier qui m'est venu à la tête, hein. Mais les spaghettis bolognaise.
Pourquoi? Vous n'êtes pas italienne un peu?
Je ne suis pas du tout italienne, non.
Ah,
mais
bon,
mon père faisait des spaghettis bolognaise. Je pense que c'est... Voilà. C'est ma madeleine.
C'est votre madeleine.
Et le foie haché.
Et le foie haché.
Oui, ça c'est une spécialité ashkénaze pour le coup.
Ah, et si vous n'êtes pas italienne, qu'est-ce que vous êtes, Mélanie Gourarie?
Voilà, je suis ashkénaze.
Et anthropologue.
Et anthropologue.
Et femme.
Et femme.
Et féministe.
Et féministe.
Et quoi d'autre? Continuons.
Je sais pas. Qu'est quoi d'autre? Qu'est-ce que
comme ça une écriture automatique un peu pour terminer cette émission.
ça dépend des moments de vie. On est toujours quelqu'un de différent, je crois. On n'est jamais la même personne. Oui.
J'aimerais bien qu'on finisse là-dessus, sur l'identité en mouvement avec vous, Mélanie Gourarie. On arrive à la fin de cette émission. Est-ce que vous êtes bien là?
Je me sens un peu hilar, j'ai un petit peu envie de rire. Ça veut dire que je me sens bien, je suppose.
Écoutez, c'est tant mieux. Merci beaucoup d'être venu dans l'instant 2. Je vais quand même rappeler l'ouvrage, votre ouvrage, c'est chez Seuil. C'est difficile à dire quand on fait de la radio, c'est chez Seuil.
Oui.
Beaucoup articulé pour ça. La séduction alpha mâle, s'inscrit dans un continuum de pratiques violentes. C'était une phrase que j'avais isolée, mais c'est pas la question parce qu'on n'a pas le temps de le développer. Alpha mâle, séduire les femmes pour s'apprécier entre hommes, c'est bien le titre de votre ouvrage. Et puis je vous invite à aller quand même y jeter un œil, une oreille, une voix, ce que vous voulez. Merci beaucoup à Lauriane Toulemont pour sa ferveur, sa générosité et puis sa lecture qui a été peut-être instructive, en tout cas pour vous, au début de cette émission. À Clémence Fuleda également pour sa tendresse et puis sa douceur. Et bien sûr à Djilou, aux manettes de cette émission, le seul homme de cette émission qu'on valorise avec bonheur et avec joie. Mélanie Gourarie, le mot de la fin, c'est à bientôt, d'autres projets peut-être à venir?
Oh bah tout, enfin j'espère, hein, ouais. Je suis pas encore morte, mais j'espère qu'il y aura d'autres choses.
Merci d'avoir remis la joie.
Merci pour l'invitation.
La question du féminisme et des gender studies, comme on dit à l'anglaise du genre, quoi, qui n'est pour le coup qui n'a pas à vous faire peur. Peur de l'instant 2, surtout pas. On se retrouve le mois prochain sur Radio Grenouille, le 88.8. Et puis bien sûr, cette émission à réécouter, podcaster avec hilarité. Mélanie Courarier et toutes les autres. On est à la 35 ou 33 ou 34, je sais plus, on continue en tout cas. Merci de votre fidélité sur Radio Grenouille. Allez, ciao.
Instant 2 sur Radio Grenouille.
Instant 2. Je ne mâche pas mes mots. Je ne mâche pas mes mots. S'il m'arrive d'être foudroyé par l'éclair au chocolat, très souvent je me raisonne avant de replonger mon doigt dans la marmelade aux pommes préparée à cappella. Sur le piano. Suffit à clarifier ma voix. L'aspartame à sa mère n'édulcorera pas la colère de voir sous la princesse un petit poids.
Au cœur d'artichaut, de la tarentelle et du tartare.